L'émission est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. C'est une femme d'images, de notes et de mots. D'images, car c'est d'abord à la télévision qu'elle s'est imposée, présentatrice du journal télévisé en Martinique, grand reporter, directrice régionale, mais aussi ensuite responsable de la diversité dans les programmes de France Télévisions. De notes, puisque dans les années 80, avec le groupe Malavoie, sa voix sensuelle nous a chanté « Caressez-moi » avant qu'elle ne se lance dans l'écriture et dans la composition de ses propres albums. De mots aussi dans la chanson, mais également dans la littérature. Son premier roman, Le Convoi, lui a valu le prix Ivoire en 2016. Le deuxième, intitulé « Une semaine et un jour », vient de paraître aux éditions Hervé Chopin, en même temps ou presque que son nouvel album « Madame ». Marie-Josée Ali est avec nous et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Marie-Josée Ali.
Bonjour.
Alors je vais dérouler les grandes lignes de votre CV. Et là donc, en même temps, ou presque, un livre, un disque, deux actualités. Vous êtes et vous resterez toujours une boulimique de travail ?
Boulimique, je sais pas, mais en fait, je ne freine rien. En fait, quand les choses arrivent, elles arrivent et j'assume. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup d'un coup. Mais c'est venu comme ça parce que, bon, un livre, c'est long. Un disque, c'est long. Et les choses se sont faites au fur et à mesure. Je ne me suis pas précipitée à un mois de la sortie des choses pour pouvoir écrire et puis enregistrer et tout ça. Donc, il y avait des titres qui étaient là depuis quand même 2-3 ans. Et puis il a fallu les travailler. Et puis le livre est arrivé. C'est vrai que les 3 derniers mois pour le livre, c'est essentiel. Parce qu'à un moment, il faut s'asseoir, il faut oublier tout le monde, oublier le monde, oublier son propre monde et s'enfermer dans un endroit qui est accueillant et qui est sympathique, qui est un peu comme un utérus et puis être seul avec soi-même.
Ah, vous vous isolez quand vous écrivez ?
Oui, je m'isole. Je m'isole. Il y a un moment, il faut que je m'isole parce que... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté France Télévisions. C'est parce que je voulais vraiment écrire et que je pouvais pas le faire en travaillant. Je suis pas du genre à me réveiller le matin, à me dire je vais écrire pendant 2 heures, et puis après je vais au boulot, ou en rentrant du boulot, écrire, c'est pas possible. Là, il y a un moment où les personnages m'emmènent, où il faut que je sois avec eux, où ils m'envahissent, je pense à eux quand je m'endors, je pense à eux au réveil, donc il faut que la plume, le crayon, ou l'ordinateur soit tout prêt pour que je puisse coucher c'est très fugace, en fait, hein. Vous savez, il y a des choses qui passent, et puis si vous savez pas les attraper, vous les perdez.
Alors, ce qui relie les deux projets, donc le livre et le disque, c'est sans doute le féminin, les femmes qui sont au cœur aussi bien de l'album que du livre. C'est pas la première fois, d'ailleurs, que vos héros sont des héroïnes. Il y a eu un livre intitulé « Elle et elle, entre chienne et louve ». C'est votre premier livre, je crois, Marie-Josée Ali, avec votre fille peintre. Il y a eu ensuite un groupe de musique aussi avec cette fois deux défis, hein, elles et elles, oui. Donc avec le premier elle au pluriel et le second au singulier. Est-ce que vous êtes une narratrice du féminin ?
Ben, je me rends compte que oui, en fait, c'est plus un constat qu'une volonté. Je me suis rendu compte que je parlais des femmes, que je parlais au féminin. Bon, d'abord, sûrement parce que on connaît mieux ce qu'on est. Je suis plus dans un corps de femme, dans une pensée de femme, dans une relation au monde de femme qu'un homme. Il faudrait vraiment que je développe des trésors d'imagination et que je fasse une enquête sérieuse, parce qu'on est différent. On est différent tout en étant les mêmes êtres humains. On est différent. Alors il y a ça. Bon, ça c'est la réponse facile, mais les réponses plus, je dirais, plus profonde, c'est que je me suis rendu compte que j'avais envie de parler. En fait, je crois que les femmes ont encore beaucoup de choses à dire. Elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que elles ont peu parlé en 5000 ans, je sais pas.
Et elles peuvent plus parler aujourd'hui
qu'avant. Et je pense elles se sont donné ce droit-là. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'elles ont des choses à dire. Et je pense que d'une certaine façon, je dis toujours, j'ai 5000 ans, parce que je cumule les pieds bandés, je cumule toutes les choses que les femmes ont subies, y compris les choses, l'excision ou des choses beaucoup plus, je dirais, futiles, comme les talons aiguilles qui me fatiguent. Je me dis, mais c'est quoi cette invention ? Et je cumule tout ça, je crois, d'une certaine façon, dans mon ADN de pensée. Et c'est tout ça qui a besoin de sortir aujourd'hui et qui, ça correspond à une époque où on est semble-t-il, davantage prêts à l'entendre, ce qui ne veut pas dire que c'est pour ça que les choses bougent vraiment. Hein. Ça bouge mollement.
Mais ça bouge quand même.
Mais ça bouge quand
même.
Dans
le bon sens.
Mais il ne faut surtout pas penser qu'on a des acquis. Même les choses acquises il y a quelques dizaines d'années, comme l'avortement et tout, tout peut toujours être remis en question, parce que moi, c'est ce que j'ai appris de la vie.
Alors l'album s'appelle donc Madame, qui peut se traduire par Madame,
oui,
en créole martiniquais. Ça n'a pas été trop difficile pour moi de deviner. Mais sur quel ton est-ce que vous pourriez prononcer ce mot Madame? Est-ce que c'est un ton conquérant? Est-ce que c'est un ton de fierté? Est-ce que c'est un ton de force, de conviction? Comment il faut dire le titre?
C'est Madame.
Ah oui, Madame. Donc ça veut dire oui, de la force,
c'est
de la conviction.
C'est de la force, conviction. C'est l'achat, du respect. Du respect, voilà, beaucoup de respect. C'est-à-dire, c'est un moment de la vie d'une femme où c'est plus une jeune fille, où c'est plus une jeune femme, où on a tendance à partir du moment où on dépasse un certain âge à ne plus être ni une femme ni un homme, mais à juste être un vieux ou une vieille. Et ben non, il y a Madame. In my dream today, I'm walking away as a crazy girl. Please stand so still, and behind my steps I saw my lady coming out. When I try talking about life, when I try talking about hell, God on sait sans bouger qu'à tourne folle, folle, folle. God on sait sans bouger qu'à tourne folle. Hey madame, pas quitter corps blessé comme ça. Hey madame, vous disiez au café main. Hey madame, pas quitter yo mal mané. Hey madame, ni yo t'a plus fort qui ça. Eh madame, in my dream today, I'm walking away as a crazy girl. The place stands so still, and behind my steps I saw my lady coming out. When I try talking about life, and I try talking about hell.
Madame, le titre éponyme du nouvel album de Marie-José Ali, notre invitée aujourd'hui dans VMDN sur RFI, une chanson dans laquelle vous évoquez aussi, Marie-José Ali, la dure réalité des femmes battues. C'est une chanson
de combat, mais une chanson de douleur, et puis une chanson de fraternité, de solidarité. C'est plein d'images. Je me suis réveillée comme ça un matin avec l'idée d'une femme qui sortait d'un espace un peu onirique, d'une espèce de jungle, et qui sortait avec toutes ses blessures, et que je la rencontrais et que je lui disais que il fallait qu'elle se batte, et que la vie était belle, et que j'étais là pour lui parler de la vie, pour lui parler de la solidarité, de l'aide qu'on peut avoir et tout. Et puis voilà, du coup, ça a fait une chanson entre anglais et créole c'est venu comme ça tout seul.
Ça fait 20 ans que vous n'aviez pas sorti de disque sous votre nom propre,
oui,
sur votre nom seul,
oui,
hein,
oui.
Il y a eu Gaoulé en 89, Zambouya en l'an 2000, ça fait donc effectivement 20 ans. Pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps?
Parce que je travaillais à la télé, parce que j'avais beaucoup de... le disque Zambouya, il est sorti juste au moment où j'ai été nommée. Ça a été une leçon pour moi, puisque je sors ce disque. Et le disque, au moment où il sort, où je dois en faire la promotion, donc ça se passe à Paris, je suis nommée directrice régionale en Martinique. Et donc, le choix, il était... Bon, voilà, je suis partie...
Malheureux hasard.
Voilà, mais ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, bon, c'est bien de faire ça, mais si tu veux vraiment faire de la musique, il va falloir que tu fasses quand même à un moment quelconque, même si je ne suis absolument contre le fait qu'on soit étiqueté et...
On aime bien mettre les gens dans des cases, en
France. Qu'on mette les gens dans des cases, je suis pas, c'est pas possible pour moi, en tout cas. Donc, j'ai continué à composer, mais je me suis dit, bon, si je veux respecter les gens avec lesquels j'ai travaillé musique, les gens qui m'aiment bien musicalement et les gens qui attendent que je fasse des choses, il faut que je le fasse en étant sûr que je pourrais être, comme on dit en créole chez nous, debout derrière, c'est-à-dire debout derrière le projet, c'est capable de le porter, de l'assumer, d'avoir du temps pour le faire.
La musique, vous êtes née avec ?
Ah oui, même je crois qu'avant ma naissance, puisque je pense que dans le ventre de ma mère, j'ai dû faire à peu près 8 heures de piano par jour, puisqu'elle était au conservatoire.
Et professeur de piano. Hein.
Professeur de piano, oui.
C'est elle qui vous a initié, c'est elle
complètement.
Qui vous a...
Elle m'a hissé sur le tabouret du piano à la maison, j'avais 4 ans, et je ne suis plus jamais redescendue, en fait.
Et cette passion, vous l'avez donc aussi transmise à vos propres filles. Hein. Je veux qu'elles aient tout à l'heure Fred et Zoé, et ce trio Elles et Elles qui a débouché sur l'album Calenda que vous avez composé à 3. Là, vous avez fait toute seule.
Là, j'ai fait, oui, toute seule avec Mike Ibrahim. C'est-à-dire que c'est que des morceaux...
Mike Ibrahim qui a réalisé l'album.
Mike Ibrahim qui a réalisé l'album. Et qui, c'est lui qui m'a dit, mais on va le laisser tel que tu l'as... Voilà, il faut pas qu'on rajoute, qu'on fasse des arrangements compliqués et tout. Ce que tu as fait là, et c'est toi qui vas jouer du piano, et c'est toi qui vas accompagner certains morceaux à la guitare, parce qu'il y a un washi un peu particulier, des Antilles et tout ça. J'ai dit, mais t'es sûre de ce que tu dis? Parce que, voilà, j'ai tellement eu l'habitude merveilleuse de travailler avec des musiciens géniaux, parce que j'ai travaillé avec les Malavois, j'ai travaillé avec Falfret, j'ai eu la chance de pouvoir faire des grands méchants zouk avec Cassav, enfin j'ai travaillé vraiment avec des musiciens balèzes, avec Dominique Fillon, avec enfin que des gens qui étaient des super musiciens. Donc ça donne de mauvaises habitudes et j'avais l'habitude de reposer mes chansons, de mettre mes chansons entre leurs mains et puis là, et j'ai eu beaucoup, énormément de plaisir à faire ça comme ça.
Donc c'est un album que vous avez écrit en quelque sorte au singulier, et pourtant la musique qui en ressort, elle est extrêmement plurielle, parce que bon, il y a la fibre caribéenne, évidemment, hein, qu'on sent tout de suite, mais il y a des moments qui sont plus latinos, il y a des moments plus classiques, il y a parfois un peu rock, un peu soul, voire parfois qui tire un petit peu vers le blues aussi, un petit peu comme dans l'album Calenda. Est-ce que la musique de Marie-Josée Ali est une musique métissée ?
C'est une musique de mélange, c'est une musique de rencontre. J'ai toujours essayé d'imaginer ce que serait le monde si les rencontres entre les peuples s'étaient faites loin du fouet, de la chaîne, des armes. Simplement l'étonnement de se trouver différent et la curiosité d'être différent et le bonheur de cette curiosité, cette espèce d'adrénaline de vie que ça peut apporter. Donc je suis un peu ça. Il y a un morceau qui illustre bien ça, c'est Eva, parce que c'est une fugue de Bach, en fait, que j'ai apprise quand j'étais gamine. Et puis là-dessus, il y a un traditionnel guadeloupéen qui est venu se mélanger de façon... Mais c'est-à-dire que je ne comprends même pas comment ça m'est arrivé dans la tête, parce que la
grille harmonique,
c'est venu comme ça.
Oui, mais les musiques traditionnelles vous ont toujours beaucoup intéressé, et pas seulement celles de la Caraïbe.
Ah oui, toutes les musiques traditionnelles. J'ai toujours... je pense qu'il y a beaucoup... Il y a l'âme d'une mémoire de l'humanité dans ces musiques-là. C'est pas du folklore. Il y a l'âme d'une mémoire. Et c'est important de savoir, de donner une âme à la mémoire qu'on a. Et c'est ça qui me séduit complètement. J'ai adoré les musiques africaines souches, je les aime. J'aime les musiques kanak, j'aime les musiques polynésiennes, j'aime les musiques, les chants du désert, j'aime le maloya, j'adore Omaro, j'aime le gros ka, j'aime le belé, j'aime le rock'n'roll, et j'aime la musique classique, et j'aime le blues. Donc, effectivement, inclassable.
Alors, votre enfance, vous l'avez passée au Diamant, dans le sud de la Martinique. Oui. Et c'est justement pour une chanson aux sonorités, au rythme caribéen, que votre voix, vous parliez de Malavoie tout à l'heure, est entrée dans nos oreilles à tous à travers ce morceau qui va forcément dire quelque chose à tout le monde.
C'est pas maudit chanter, caressez-moi. L'homme a qu'à gémir, la lune l'a frémi, cocotier qu'à parler, caressez-moi. Dis maman qu'à plaire, l'homme l'a fatigué, voyez, sans y'a tout qu'à couler, caressez-moi.
Caressez-moi, évidemment, énorme tube en 1987, on pouvait évidemment pas y échapper en vous recevant, Marie-Veuze et Ali. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, parce que 87, ça commence à faire un petit peu de temps, mais ça n'a pas tellement changé finalement. On a toujours besoin de tendresse, de caresses, d'empathie.
Totalement. Et je pense que le moment, cette chanson est arrivée. Je l'ai composée et écrite en même temps. C'est-à-dire, j'avais ma guitare et les paroles venaient. Et il a fallu vite que je note et que je prenne un enregistreur à l'époque, pour ne pas oublier ce qui était en train de se passer entre la musique et moi et ce que j'avais envie de dire. J'étais en Bourgogne, il faisait moins 16 degrés.
Oui, parce que contrairement à ce que l'on pense, c'est pas du tout une chanson qui a été écrite aux Caraïbes.
Elle a été écrite
en Bourgogne, où vous étiez
Dijon, où j'étais journaliste. Je présentais le journal à radio, puis télé. Et je présentais le journal des Bourguignons à l'époque. Et moins 16 degrés, c'était beaucoup pour moi. C'était totalement exotique, quoi. C'était hors de mon être, hors de mon corps. Et je me disais que, enfin, c'est une chanson qui, contrairement à ce qu'on imagine, bien sûr, qui dit qu'on a tous besoin de caresses, mais qui dit aussi, qui décrit aussi le monde tel qu'il est dans ses catastrophes et ses soubresauts. Et ça n'a pas changé.
Là, voilà, et là, c'est aussi la journaliste qui était en vous à l'époque et qui reste toujours un petit peu
reste,
en vous.
Je crois que ça part jamais. Hein.
Qui part. Mais pourtant, c'est pas vous à la base qui devient interpréter ce titre, parce que Malavoie, ils sont venus un petit peu vous chercher, quoi.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, là, on faisait le bœuf chez moi, j'avais composé cette chanson, et je la chantais avec eux et tout, et puis il leur manquait un titre, je leur ai dit, s'il n'y a pas de problème, caressez-moi, puis Ralph
prenez
a chanté.
Prenez celui-là, oui.
Voilà, prenez celui-là, et Ralph a dit, moi, ah non, jamais, non, je ne vais pas chanter caressez-moi, je vais être assaillie par les filles et tout.
Ah oui, d'accord. Ah, oui. Non, mais... Donc c'est Ralph Tamar qui vous a dit, chanter toi-même,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, c'est ça, et Polo a dit, écoute, tu vas le chanter, mais je pense que c'était un complot, il voulait que je la chante. Tous, parce que c'est une fausse excuse.
From too much love of living, from hope and fear set free, we thank God whatever they may be, that no life lives forever, did man rise up never, that even the warrior's river winds somewhere safe to see. For large, you see I live, besoin d'elle pour s'envoler. Merci, bon Dieu, qui bon Dieu, qui oui, pour la vie qu'on y est. Zombie peut pas lever, qui même là, rivière fatiguée. Toujours rêvé ou en bon gomblé non mais. Take me away, pas coûter, laisse-moi caplérer. Take me away, moi cap voler. Take me away, pas coûter, laisse-moi caplérer.
Cette émission est une rediffusion.
Missier Byron, nouvel extrait de Madame, le nouvel album de notre invité Marie-Josée Ali sur RFI. Alors après les caresses, on est donc passé de Madame à Missier. Et d'un bout à l'autre de l'album, Marie-Josée Ali, on passe du créole martiniquais à l'anglais. Il y a une raison particulière?
Non, c'est franchement l'inspiration qui était comme ça en fait.
Tout a l'air extrêmement facile avec vous en fait. Non. Tout est simple, vous vous asseyez et puis les choses vous viennent comme ça.
Ben, c'est-à-dire qu'elles me viennent et je m'assieds après. Là, ça me percute et il faut que je m'asseye et que je... Voilà, c'est dans cet ordre-là. Parce que c'est Lord Byron. En fait, ça m'est venu... D'abord, c'est un poème qui n'est pas de Lord Byron. Alors c'est ça qui est intéressant parce que j'ai découvert très tard... Quand j'avais 16 ans, j'ai lu Climat de mon roi, et dans Climat de mon roi, il y avait un extrait de poème que j'ai beaucoup aimé parce qu'il parlait à mon adolescence. Il racontait que même les rivières les plus lasses finissent toujours par atteindre la mer quand on est adolescente. C'est génial, en fait. J'avais adoré ce truc et j'avais lu Lord Byron. Et c'est ce que j'ai retenu. En fait, c'était un ouvrage qui avait été écrit par Richard Swinburne qui est carrément pas du tout sur Lord Byron.
Ouais.
Et c'est un type un petit peu sulfureux, très Casanova et tout. J'ai bûché, mais comme j'ai pendant des années, toutes les années de ma vie, j'ai cru que c'était Lord Byron qui avait écrit ce texte que j'ai retenu et sur lequel j'avais envie de faire une chanson depuis toujours. Et voilà, je l'ai appelé Missy Byron, comme ça le créole et l'anglais se sont mélangés pour se rejoindre dans mon imaginaire, parce que c'était vraiment mon imaginaire.
Mais est-ce que vous avez fait un travail de traduction? Est-ce que vous avez passé des vers anglais
au créole, des vers créoles? Non, disons que je le sens global que je vous ai donné un peu, hein, c'était ça, hein, que, même si quels que soient les dieux en lesquels on puisse croire, on sait qu'aucune vie ne vit toujours et que même les rivières la rivière la plus lasse finit par atteindre la mer. Dans cet esprit-là, j'ai écrit en créole quelque chose qui correspondait à ce que j'avais envie de dire aussi.
Et le passage de l'anglais au créole, il s'est fait là aussi de façon naturelle, de façon presque logique.
Oui, beaucoup plus logique. Enfin, oui, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, c'est venu comme ça. C'est ni l'espagnol, ni le français, ni.
Alors justement, l'anglais, le créole et le français dans tout ça, la francophonie, Marie-Josée Ali, c'est important pour vous, c'est un de vos combats, la francophonie.
C'est-à-dire que le combat de la francophonie a été entachée par beaucoup de choses compliquées. Moi, je crois effectivement qu'il y a un enrichissement de la langue française dans tous ceux qui écrivent en français à partir de leur langue d'origine. Que ce soit les pays d'Afrique, que ce soit les pays des Antilles, on voit bien la créolité, ce que c'est. Enfin, on voit bien qu'il y a le Canada. Enfin, moi, je sais reconnaître quand c'est un auteur canadien qui a écrit, je vois tout de suite que c'est quelqu'un qui vient du Canada. Ouais. Donc, cet enrichissement du français et de la langue, c'est dans ce sens-là, la francophonie est intéressante. Pour le reste, pour tout ce qui est politique, j'ai peut-être un peu plus de enfin, je ne veux pas m'en mêler, j'ai plus de recul par rapport à ça.
Il n'y a pas beaucoup de français quand même là sur
non, mais ça c'est vraiment le hasard des choses en fait, parce que l'album précédent il y avait des titres français. C'est pas venu comme ça. Peut-être que avec le temps, je me créolophonise et que disons que c'est quand même beaucoup plus facile pour moi de composer en créole, parce que le créole c'est une langue qui propose beaucoup les images. Des images et des paraboles. Et journaliste de télé que je suis, je vois beaucoup les choses en images. J'écris aussi, quand j'écris en images. Pour le créole, c'est les phrases courtes et les histoires courtes sont beaucoup plus simples à faire en créole, en français. Peut-être le français est une langue qui heurte un peu le palais, en tout cas quand on le au niveau des sons. Alors que l'anglais et le créole sont plus ronds, voilà, c'est une solution de facilité peut-être.
Ah peut-être, mais c'est vrai que pour la chanson, c'est vrai que c'est peut-être effectivement un peu plus naturel.
Et puis c'est le cœur de mon ventre.
Voilà. Alors à propos de créole, il y a un homme, un écrivain et non des moindres que vous avez beaucoup lu et que vous avez même rencontré, Marie-Josée Ali, c'est évidemment Aimé Césaire. Vous avez réalisé un documentaire sur lui et voici ce qu'il disait à propos du créole. Alors ça date un petit peu, hein. Ça date de 1962.
Je ne suis pas du tout créolisant. Pas du tout créolisant pour plusieurs raisons, et c'est que peut-être j'ai très fort le sentiment de l'infirmité de cette langue qui s'appelle le créole, qui me paraît vraiment une petite langue régionale, d'une portée extrêmement limitée, non pas du tout que je la méprise, mais enfin pour en faire un instrument valable. Il aurait fallu faire sur cette langue un effort aussi prodigieux que celui que les gens de la Pléiade ou les hommes du XVIe siècle ont fait sur le français et pour en faire un instrument valable et utilisable. Est-ce que vraiment, en 1962, cela en vaut la peine? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr et je vois que même en Haïti, le problème se pose, et pourtant Haïti a une population plus considérable que la nôtre. Les intellectuels haïtiens ont été confrontés par un problème assez douloureux. Devaient-ils écrire en français? Devaient-ils écrire en créole? Et je ne sache pas que la majorité ait écrit et choisi le créole. Le créole, parce que c'est une langue, encore une fois, d'une influence extrêmement limitée, choisir le créole, c'est un peu se couper du reste du monde.
Est-ce que vous partagez l'avis exprimé en 1962, je le rappelle,
absolument
par Aimé Césaire?
Absolument pas, et je pense que si on avait interviewé beaucoup plus tard là-dessus, il aurait dit autre chose. Parce que en 62, on est tous un petit peu comptables de l'environnement dans lequel on est, de l'éducation qu'on a reçue. Césaire était quelqu'un... j'étais d'accord à peu près sur tout. Sauf sur ça, et franchement, et je pense que lui-même ne serait pas d'accord avec lui-même.
Mais c'était important de préciser là-dedans.
Oui, c'est important de préciser la date parce que là, il était très jeune et bon, il a une passion, il a toujours une passion pour la mythologie grecque, il avait une passion pour l'écriture française, il avait une passion pour la poésie française et on a été éduqués pendant des décennies et sinon des siècles à imaginer que notre langue de partage, qui était le créole, puisque bon, il savait parler créole avec les gens de la commune qu'il gérait, à savoir la capitale, la Martine, Fort-de-France. On a été éduqués à dire cette langue-là, non, il faut pas la parler. Faut pas la parler parce que tu vas pas savoir bien parler le français. C'est le français ta langue.
Donc ça va
parce
te handicaper.
Parce que tu es français, ça va t'handicaper. Et je pense que ça a été, c'est rentré dans la tête de à peu près tout le monde. Moi, j'étais très jeune à cette époque-là, hein, dans les années 60. Et il y avait quand même une révolte. Il y a quand même une réalité. C'est que d'abord, le monde créole est beaucoup plus large qu'on imagine. Et puis qu'il est la résonance d'une histoire. C'est la rencontre je l'ai interviewé après là-dessus, justement sur le créole, parce que, et il m'avait dit, mais le créole, c'est la rencontre entre deux univers. C'est la rencontre entre le français et les langues africaines. Et c'est le français régurgité par les gosiers africains. Enfin, il avait sa manière de dire les choses. Il appartenait à une génération qui disait les choses comme ça. Mais je crois que le créole, c'est aussi une manière de penser. Je crois que c'est une manière d'être au monde. C'est une manière je vous disais, le créole est plein d'images, de paraboles et c'est une langue extrêmement poétique en fait.
Alors votre nouveau roman Une semaine et un jour, paru je le rappelle aux éditions Hervé Chopin, est écrit en français, mais est-ce que derrière votre langue française, à vous, de par votre parcours, de par vos références, se cache une part de créolité?
Ah mais forcément. Je ne fais pas partie. J'écrivais l'autre jour que je suis dans les petites impasses et les petites ruelles du grand boulevard de la créolité, parce qu'il y a tout un avec des il y a des choses qui sont posées et tout. Moi je déteste les cases, donc mais la créolité, mais ça n'est pas quelque chose que l'on décide, que l'on calcule. C'est quelque chose que l'on transpire, c'est-à-dire qu'on le fait sans même s'en rendre compte. Je sais qu'il y a des tournures de phrases, il y a une manière de dire de présenter les idées dans une langue qui est sans doute française. Les mots sont français, mais leur agencement est créole. Et c'est cette musique-là des mots qu'on retrouve dans la créolité. Mais je suis sûre que j'écris comme ça.
Oui, il y a une vraie sensualité, effectivement, dans votre écriture, et aussi cette forme de musicalité. On parlait de va-et-vient il y a un instant à propos du disque entre l'anglais et le créole. Dans le livre, il y a un mouvement de va-et-vient entre deux époques et entre deux héroïnes, Soraya et Céleste. Alors on va commencer par Soraya, Marie-Josée Ali, c'est elle qui est la plus proche de nous, en tout cas chronologiquement parlant, puisque ce que vous racontez à son sujet se passe en 2015, et pourtant c'est un personnage très mystérieux. Elle déambule dans les rues de Paris, d'appartement en hôtel plus ou moins miteux. Alors on dirait une SDF, hein, sauf qu'elle paye avec sa carte bleue premium. Donc là, déjà, oui, on dit vraiment, c'est quand même très très bizarre. Étrange personnage, effectivement. Petit à petit, on comprend dans quel état d'esprit elle est, mais c'est vraiment très 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 progressif. On va pas tout dévoiler, mais est-ce qu'on peut dire, Marie-Josée Ali, que cette déambulation, cette errance dans Paris, c'est une façon de trouver son chemin de Damas, de trouver sa voie, de régler un certain nombre de problèmes?
Oui, c'est une manière aussi de réagir à une énorme contraction. Il s'est passé un truc, ça se passe juste après les attentats, et je me souviens de ce Paris-là, l'attentat du Bataclan et des cafés parisiens.
Novembre 2015,
et j'étais à Paris, et c'est vrai que pendant un certain temps, il y avait la volonté des Parisiens de dire non, on va pas céder, on va pas s'enfermer, c'est pas le coronavirus quoi, on va se battre et on va être dehors. Et en même temps, il y avait cette au moins de pneus qui éclatent, au moins de crissements de freins et tout, il y avait une panique qui s'installait. Moi, j'ai vécu dans la rue des gens qui couraient partout parce que il y avait un bruit étrange. Donc il y a cette espèce de fébrilité qui fait qu'un tenté commence. Et dans ce tenté, cette errance me paraissait une manière d'essayer de trouver un chemin dans le grand bordel dans lequel on est aujourd'hui, quoi, en fait.
C'est des attentats de 2015 qu'est partie l'idée de ce livre ?
Oui. Je me suis dit, mais j'aurais pu y être là, mes enfants auraient pu y être, j'aurais pu être là. On est nombreux à se dire, on aurait pu être là, et puis on est nombreux aussi à dire, mais on était là. On a été là et on est mort. On n'est plus là. Et donc, c'est vrai que c'est un choc que je ne savais pas garder à l'intérieur de moi. Donc, j'étais obligée de l'envelopper, de l'englober. Et j'ai fait une chanson, j'ai fait le livre. Et le livre, j'avais pas envie de l'enfermer dans ces attentats. Donc, c'est pour ça que ce personnage de Céleste, donc, qui, elle, est dans le Paris de 1788, qui lui précède aussi un tenté qui va être 1789, la Révolution.
Donc deux périodes charnières, deux périodes marquées par une profonde inquiétude, un profond bouillonnement.
Ouais, par une violence aussi latente, par une violence permanente au quotidien, parce que la violence, on sait qu'elle existe, mais on a toujours l'impression qu'elle est loin de nous quand on ne vit pas dedans. Et par exemple, ta chanson, quand je l'ai écrite, on comprend pas parce que c'est du créole, c'est Sista, et je me suis dit, voilà, je suis dedans, j'ai sauté, et là maintenant, je suis quelque part là-haut, et je rencontre une petite sœur avec un voile.
Alors justement, on va écouter Sista, bon, et puis d'accord. on en parle juste après.
D'accord.
Bonjour, pour tromper la pluie. La rue cachaille vent mauvais, mais nous-mêmes, nous passons. Si t'es bon, je ne va chanter. On écoute la musique et danser. Mais la riche aille bon mauvais, ça moi pas, j'en ai dit. Car tout n'est bon, dit donc, et rouler. Quand chaque fois qu'a goûté pour ça réparer, pour sa peine, en bout de chiffler, pour soleil, le vent.
Et donc, cette chanson, Sista, Marie-Josée Ali, c'est un peu un pont musical entre l'album et le roman?
Oui, bah je pense que j'étais dans le même état d'esprit et que ça a donné les deux choses quoi. En fait, ce qui est important pour moi dans cette chanson, c'est que ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que le sang sur le trottoir était comme un bouquet de fleurs qu'on offrait au soleil levant à l'Orient, en fait, à quelque chose, à la sœur qui avait vécu la même chose dans un pays à Kaboul et à laquelle on pense pas forcément. Et quand je l'ai rencontrée là-haut, on s'était toutes les deux à regarder les hommes s'agiter en bas pour réparer les merdes qui avaient été faites par les humains, quoi.
Oui, et donc c'est dans ce contexte de cette explosion, de cette panique dont on entend les échos, hein, à ce moment du livre, que Soraya va rencontrer Denis, Denis, c'est un homme en tongs. On est au mois de novembre 2015, hein, je le rappelle. Donc ça, déjà, c'est pas banal. Nous sommes page 62 de votre roman.
Il s'était passé quelque chose, mais elle ne savait pas bien quoi. Il accéléra le pas, elle accéléra le pas. Il se mit à courir, elle courut à ses côtés. Il portait des tongs en plein hiver, et ses vêtements venaient tout droit d'un surplus américain. Elle remonta la capuche de son manteau. Son cœur avait recommencé à battre normalement. Elle entendait les sirènes des voitures de police. Elle enfonça les poings sur ses oreilles. Son cabas lui échappa des mains et roula sur le trottoir. Elle vit les tongs faire demi-tour. Une main ramassa ses affaires. Au bout de cette main, il avait un foulard épais, au moins 3 tours de cou. Elle regarda cet homme qui se protégeait la gorge, mais pas les pieds. Il avait les yeux fous qui bougeaient, tout le temps, dans leurs orbites, des flaques bleues. « C'était quoi ?» fit-elle en essayant de récupérer son fourre-tout. « Je vous l'ai dit !» Ses paupières s'affolaient. « Les forces du mal nous guettent, elles ont des crocs et des engins de mort !» Il recommença à marcher, ses cheveux pâles étaient longs et mous. Elle regarda ses pieds. « Vous n'avez pas froid ?» Il secoua la tête, l'air très sérieux. « Non, non, je suis bien couvert !» Et ils continuèrent d'avancer ensemble. C'était la chose la plus normale qui soit. Aucun d'eux ne voulait parler. Ils écoutèrent les hurlements des sirènes décroître derrière eux. La rue reprenait son rythme. Il se tourna vers elle. « On va s'arrêter à un café ?»
Très étonnant, hein, ce personnage qui s'appelle Denis. Comment l'avez-vous imaginé ?
En fait, il existe.
Ah, c'est un personnage réel.
C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps au cours d'un reportage. Et en passant, je le salue parce que je ne l'ai plus jamais revu. Denis existe. C'était un homme que j'ai rencontré qui avait cet air perdu de quelqu'un qui est perdu. Et qui dont la vie était occupée par le fait d'aller dans les cimetières et de déposer des petits bouquets sur les tombes abandonnées.
Ça
et
c'est dans le livre.
Était, bah oui, bah du coup, je suis allée au bout. Mais la plupart du temps, les personnages, on les a croisés, on les a rencontrés. Alors je les croise le temps d'un reportage, un tournage, mais ils me marquent et ils rentrent dans mon panthéon personnel, dans mon affectif personnel et je leur redonne vie de cette façon-là. Et c'est vrai qu'il était en tongs en plein hiver et qu'il était un peu parti, il avait la tête un peu ailleurs, il parlait en luant toutes les syllabes, il écrivait avec des syllabes collées les unes aux autres. Tout ça, c'est dans le livre, mais c'est une réalité.
Ça veut dire que n'importe quelle rencontre, n'importe quel personnage que vous pouvez croiser dans votre vie quotidienne peut devenir un personnage de roman.
Oui, tout à fait. Alors ceux que je revois encore, je les appelle pour leur dire, bon, ça t'ennuie pas, mais t'es dedans, hein, t'es dans mon roman, bien sûr, pas avec le même prénom, pas avec... Mais, non, ça va, mais par exemple... Pour mon précédent livre, la jeune femme qui était Julie, enfin la jeune femme qui était, c'est quelqu'un que je connais. Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit non, mais pas mon prénom, s'il te plaît.
D'accord. Alors Soraya, je ne sais pas si le personnage existe réellement. En tout cas, depuis qu'on a commencé à parler d'elle, elle a poursuivi sa déambulation dans les rues de Paris, hein, son errance avec son sac et son carnet. C'est important le carnet. Hein. C'est oui. Un petit carnet rouge dans lequel elle plonge régulièrement à chaque halte, donc à chaque nouvel hôtel, à chaque nouvel endroit où elle s'arrête. Ce carnet rouge, c'est quoi ? C'est un peu sa bouée de sauvetage et sa bouteille d'oxygène en même temps ?
Oui, en fait, elle s'accroche à ce carnet parce que c'est ce carnet qui lui permet de... C'est comme toutes les lectures, hein, quand on lit pour se décoller du réel un peu. Et là, elle se décolle du réel avec une histoire qui l'intéresse parce que c'est l'histoire de son ancêtre arrière-grand-mère qu'elle a retrouvée dans une vieille malle et qu'elle a emmenée avec elle dans son errance. Et finalement, on suit l'histoire de cette jeune fille parce qu'elle n'a que 15 ans quand elle arrive à Paris. Elle vient de la Martinique, d'une plantation. Céleste. Elle n'a que 15 ans quand elle arrive dans ce Paris qui est torturée par la violence et par la révolution. Vraiment, on est en train de renverser la table et de tout changer. Et ça l'emmène suffisamment loin pour l'empêcher d'affronter ses vieux démons. Donc, l'une aide l'autre, mais on le saura à la fin.
Alors, mais beaucoup de personnages dans votre récit. Il y a le père de Céleste, qui est plutôt en toile de fond et qui réapparaît de temps en temps. Il y a une femme qui s'appelle Nanou, qui compte beaucoup pour Céleste. On sent qu'elle est très très attachée. On sent aussi très vite qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave, mais bon, on n'en sait pas plus jusqu'à une bonne part du roman. Beaucoup de personnages, effectivement, et donc toujours cet aller-retour. Décidément, on parlait d'aller-retour entre les langues à propos de votre livre. Là, il y a l'aller-retour entre les deux personnages, hein, donc Céleste et Soraya, et puis il y a aussi l'aller-retour entre les deux façons que vous avez de raconter le destin de Céleste, parce que il y a des chapitres écrits à la troisième personne, donc c'est vous qui racontez le destin de Céleste, et puis il y a des moments où c'est Céleste elle-même qui raconte à travers justement les pages de ce fameux carnet, écrite dans une police d'écriture cursive, et là elle écrit à la première personne. Pourquoi est-ce que vous avez voulu justement marier ces deux types de narrations très différentes ?
Parce que je n'étais pas sûre que le ressenti de Céleste qui écrit à la première personne rende entièrement l'ambiance et la réalité de ce qu'elle était en train de vivre. Donc j'avais envie de la placer aussi comme un personnage possible, pas seulement comme une écriture à la première personne, parce que je trouve ça un peu, c'est un peu barbant quand on est quand on lit le journal de quelqu'un comme ça et puis qu'on est à la première personne, parce que son histoire elle est dense, elle est longue, elle est enrichissante d'un tas de trucs. Enfin, moi, j'ai découvert, j'ai fait plein de recherches pour savoir quelle température il faisait, comment était Paris à cette époque-là, quelles étaient les frontières même de Paris. J'ai découvert qu'il y avait des réfugiés, des immigrés syriens qui étaient sur les bords de Seine, et qu'on était déjà un étranger quand on venait du Poitou-Charentes ou de la Bretagne, et qu'on était vraiment considéré par le Parisien comme un étranger. Et tout ça, j'avais envie de pouvoir le raconter, non pas avec à la première personne, mais avec une plus grande liberté.
Et Paris, c'est un personnage aussi, parce que c'est plus qu'un décor.
Les endroits, c'est des personnages importants. Les endroits, c'est le précédent bouquin, c'était la forêt amazonienne, et là, c'était Paris. Et Paris, c'est une jungle d'une certaine façon, mais c'est très important l'endroit, parce que l'endroit raconte sa propre histoire aussi.
Life goes on. Nous abattions pour aller. Life goes on. Juste attendons pas virer. Life goes on. Nous seuls savent ça nous s'aimer. Life goes on. Ça nous l'a dit en chemin. Messieurs, dames, bonjour pour la ronde. Messieurs, dames, bonjour pour le monde. Moi qu'a plié genou pour faire la révérence. C'est la vie qu'a passé, salué sa majesté. Life goes on. Nous abattions pour aller. Life goes on. Juste attendons pas virer. Life goes on. Nous seuls savent ça nous s'aime. Life goes on. Ça nous l'a dit en chemin.
Life goes on, la vie continue, un titre et une tonalité plutôt apaisante, hein, pour terminer cet entretien avec vous, Marie-Josée Ali. Après les périodes troublées traversées par Céleste et Soraya, on rappelle que Soraya, c'est notre période à nous, de toute façon, en 2015,
nous,
on est encore pleinement dans cette optique-là. Est-ce qu'on a besoin de calme? Est-ce qu'on a besoin de sérénité pour pouvoir se dire la vie continue?
Oui, moi je crois qu'on a besoin de paliers de décompression. Il faut qu'on se les crée, parce qu'il y a rien dans notre environnement qui va nous les créer. Il faut qu'on se les crée avec notre énergie, avec notre force de réflexion, avec la capacité de recul qu'on peut avoir sur les événements. Et il faut qu'on se crée ce palier de décompression qui nous permet de faire un petit peu reset, quoi. Parce que sinon on est en overdose de tout et on ne maîtrise plus rien. Surtout quand je dis maîtriser, pas les événements autour de nous, certes, ça c'est un autre propos, mais on ne maîtrise pas notre ressenti et notre rapport au monde, et ça c'est grave.
Voilà, et c'est la journaliste de toujours qui le précise. Merci beaucoup Marie-Josée Ali.
Merci à vous.
Le livre Une semaine et un jour aux éditions Hervé Chopin, l'album Madame et une série de concerts au Baiser Salé à Paris les 19, 20 et 21 mars dans le cadre du festival Les Voix au Pluriel.
Voilà, et le 4 juin au New Morning.
Cette émission est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Allez, on part au théâtre avant de se quitter avec une pièce baptisée Taïga. Taïga, c'est le nom de l'opération policière menée en novembre 2008 contre des habitants du village de Tarnac en Corrèze, suspectés alors d'avoir saboté des lignes SNCF. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Ce fut le coup d'envoi de 10 ans de démêlés judiciaires qui ont finalement débouché sur un non-lieu général. Alors en montant cette pièce, la compagnie Cassandre s'est interrogée sur nos libertés individuelles et sur l'état de la démocratie en France, une comédie du réel qui mérite théâtre et documentaire. Que Alexis Bédu est allé voir pour nous.
Alors, ces écoutes, on en est où ? Nadine, ça donne quoi ?
Ben, je te l'ai déjà dit hier, ça donne rien. Ça va donner, mais là, pour l'instant, ça donne rien.
Taïga, c'est l'histoire d'un fiasco, policier, médiatique et judiciaire. Sur scène, les 5 comédiens nous racontent les faits. Ils sont tour à tour avocats, juges, journalistes et agents des anciens RG, les renseignements généraux.
Mais tôt ou tard, il y a quelque chose qui va filtrer.
Oui, Steph.
Ils vont laisser échapper quelque chose.
Ils laissent toujours, Steph.
Bon, et pour les filatures ? Cri-cri, Angela ?
Oui.
Du nouveau ?
Du nouveau, oui. On s'est concentré sur Coupa comme tu nous as demandé, Steph.
Très bien.
Beaucoup d'allées et venues, beaucoup, beaucoup. Mardi, Paris. Mercredi, jeudi, Tarnac. Vendredi, Paris. Oui. Samedi, Tarnac. Dimanche,
oui.
Paris.
Oui. Et aujourd'hui ?
Bah, c'est un peu ça le problème.
On l'a perdu.
Vous l'avez
volontairement
perdu.
Purée, ils sont bons.
Il est bon, Steph.
Ouais.
Il est très très bon. Hein.
Je sais. On ne pouvait pas faire autrement.
Oui.
Je te jure.
Je sais, Christian.
Bref, rappel de l'affaire. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, des caténaires de ligne TGV sont sabotés à l'est de Paris. Quelques jours plus tard, une dizaine de personnes, militants d'extrême gauche, sont arrêtées à Tarnac, petit village de Corrèze, suspectés d'avoir commis ces sabotages. S'en suivront pour eux 10 années de calvaire judiciaire où tout sera mis en œuvre pour les faire condamner. Pour le metteur en scène Sébastien Valignat, cette histoire est symptomatique de ce qu'il se passe aujourd'hui dans nos sociétés toujours plus sécuritaires.
Tout discours politique qui ne va pas dans le sens d'une inflation sécuritaire est inaudible. C'est-à-dire aujourd'hui, un homme ou une femme politique qui déciderait de dire « Écoutez, il faut restreindre un petit peu les lois liberticides pour qu'on ait plus de liberté », ça va tout de suite être pointé. C'est au détriment de la sécurité des Français, c'est inaudible. Donc ça me semble extrêmement grave. La deuxième chose qui est encore plus inquiétante sans doute, c'est une criminalisation de l'action politique. Et là, en l'occurrence, ces jeunes gens qui ont été arrêtés pour terroristes, pour avoir posé ou pas ces fers à béton, c'était des anarchistes. Donc c'est pour leurs idées politiques qu'ils ont été accusés de terrorisme et non pas uniquement pour les faits. Et ça, je trouve ça extrêmement grave si on essaie de prendre un petit peu la démocratie au sérieux.
3 écrans géants cernent le plateau. Une maquette miniature du village de Tarnac est exposée. On déroule le fil de l'histoire et l'on passe d'une dimension à l'autre, d'une échelle à l'autre selon les séquences. Côté texte, tout est documenté. Ce sont les mots des procès-verbaux, les mots employés par les médias à l'époque qui sont utilisés. La comédienne Charlotte Ramon.
On avait la volonté de ne jamais, entre guillemets, jouer les protagonistes pour pas inventer, pour pas prendre la parole à la place d'eux. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir vraiment une seconde partie dans notre construction de spectacle. Ce sont exclusivement des documents du réel. Puis après, il y a toute la partie procès où là, vraiment, on a des choses plus délurées, plus poétiques et un peu plus folles, quoi.
Je suis juge d'instruction à la section antiterroriste de Paris. Au fond de moi, j'en ai la certitude, c'est le groupe de Tarnac qui a fait le coup. Mais après des mois d'investigation, je n'ai toujours pas la preuve de leur culpabilité et l'enquête piétine.
Ça, c'est le générique qui introduit une séquence de comédie pure. Intégrer de l'humour sur des sujets sensibles ou douloureux, c'est une des marques de fabrique de la compagnie Cassandre, explique Sébastien Valignat.
Le rire, contrairement à l'émotion ou au drame, ne neutralise pas la pensée. Si jamais je suis en train de regarder quelque chose qui est un petit peu complexe et qu'on me fait rire, je peux continuer à réfléchir. Et comme là, c'est des spectacles un petit peu exigeants où on essaie de faire appel un petit peu à la vivacité du spectateur et le mettre en positionnement de questionnement, il me semble que le rire est le meilleur moyen de continuer à faire ça.
On nous prend, faut pas déconner dès qu'on est né.
Reportage d'Alexis Bédu pour VMDN. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI. Et vous m'en direz des nouvelles.
RFI présente